Chapitre 4. Le lendemain, Hissan avait une coupe à charger à l'extrémité la plus basse du taillis. Il sortit de très bonne heure. Cette aube d'hiver était transparente comme un cristal. Le soleil se levait tout rouge dans un ciel pur. À l'orée du bois, les ombres s'étalaient, profondes et bleues. Par-delà la scintillante blancheur des champs, les futaies lointaines s'estompaient en masses vaporeuses. Fromm aimait cette heure matinale, si paisible. À mesure que ses muscles s'assouplissaient pour la tâche quotidienne et que ses poumons aspiraient à longs traits l'air de la montagne, sa pensée devenait plus lucide. Quand la porte de la chambre avait été refermée, Zéna et lui n'avaient plus échangé la moindre parole. Sa femme avait compté quelques gouttes d'un médicament placé sur une chaise à côté du lit, puis après les avoir bu et s'être enveloppé la tête d'un morceau de flanelle jaunie, elle s'était recouchée, le visage vers la muraille. Hissan s'était vivement déshabillé, puis avait soufflé la lampe pour ne pas voir sa femme en s'allongeant auprès d'elle. Il avait entendu Matti qui allait et venait, la faible clarté de sa chandelle traversant les trois paliers lui arrivait par-dessous la porte. Jusqu'à ce qu'elle s'éteignît, il avait tenu les yeux fixés sur cette lueur à peine visible. La nuit complète avait alors de nouveau rempli la pièce. On n'entendait plus que la respiration asthmatique de Zéna. Dans le cerveau fatigué d'Ethan, s'agitaient confusément toutes les inquiétudes de la journée, mais le souvenir pénétrant du jeune bras qui s'était appuyé contre le sien dominait tout. Et pourquoi n'avait-il pas embrassé Matti quand elle était ainsi près de lui? Quelques heures plus tôt, il ne se serait même pas posé la question. Quelques minutes même auparavant, alors qu'ils étaient tous deux hors de la maison, il n'aurait pas eu l'audace de songer à lui prendre un baiser. Mais depuis, il avait vu ses lèvres à la clarté de la lampe, et il sentait qu'elles étaient siennes désormais. Maintenant, dans la pleine lumière d'un beau matin, il retrouvait devant ses yeux le visage de Matti. Et il lui semblait fait, ce visage, avec la pourpre du soleil et la pure blancheur de la neige. Comme elle avait changé, la chère petite, depuis son arrivée à Starkfield. Lorsqu'il était allé à sa rencontre à la gare, il se le rappelait bien, elle lui était apparue si frêle et si blanche. Et pendant tout le premier hiver, comme elle frissonnait quand les rafales du nord secouaient les planches minces de la maison et que la neige chassait comme de la grêle contre les fenêtres mal closes. Il avait eu peur qu'elle ne détestât cette rude vie de labeur dans le froid et la solitude. Mais pas un geste de mauvaise humeur ne lui avait échappé. Zéna estimait que Matti, n'ayant aucun autre refuge, devait forcément s'accommoder de la situation. Mais Hissan ne jugeait pas l'explication aussi concluante. Et quoi qu'il en fût, pensait-il, Zéna elle-même n'avait jamais appliqué cette théorie à son propre cas. Si le malheur avait enchaîné auprès d'eux la jeune fille, il en était d'autant plus désolé pour elle. Matti Silver était la fille d'un cousin de Zenobia, qui avait soulevé à la fois l'envie et l'admiration de toute la famille en quittant la montagne pour une ville industrielle du Connecticut. Là, il avait épousé une jeune fille de Stamford et repris la droguerie florissante que tenait son beau-père. Par malheur, Orlin Silver était un homme de grande visée et il était mort trop tôt pour prouver que la fin justifie les moyens. Ses livres avaient révélé trop clairement ce qu'avaient été ses moyens, heureusement pour sa femme et sa fille. On ne les avait examinés qu'après ses obsèques émouvantes. Mrs. Silver était morte des suites de ces fâcheuses révélations. Matti, à 20 ans, s'était donc trouvé seul pour faire son chemin dans la vie, avec les $50 que lui avait procuré la vente de son piano. Tout ce qu'elle savait faire, oh, c'était chiffonner un chapeau, faire du molasses candy, réciter la fameuse poésie « Le couvre-feu ne sonnera pas cette nuit », jouer au piano, la corde perdue et un pot pourri d'après Carmen. Quand elle essaya d'étendre le champ de son activité jusqu'à la sténographie et à la comptabilité, sa santé s'altéra et 6 mois passés debout derrière le comptoir d'un magasin de nouveautés ne contribuèrent pas à la rétablir. Ses parents les plus proches avaient été amenés à placer leurs économies entre les mains de son père. Après sa mort, ils rendirent le bien pour le mal en prodiguant à la jeune fille tous les conseils dont ils disposaient, mais il leur parut excessif de faire davantage en y ajoutant matériellement. Toutefois, lorsque le médecin eut conseillé à Zéna de chercher quelqu'un pour l'aider aux travaux domestiques, la famille vit aussitôt l'occasion de tirer de Mattie une espèce de compensation. Mrs. Fromm, bien qu'elle ne se fît guère d'illusions sur les capacités de sa jeune cousine, était séduite par la possibilité de la prendre en faute sans qu'on risque grand risque de la perdre. C'est ainsi que Mattie vint à Starkfield. La façon qu'avait Zéna de prendre les gens en faute était silencieuse, mais elle n'en était pas moins décourageante. Pendant les premiers mois, Ethan, alternativement, brûla du désir de voir Mattie se révolter et trembla à la pensée de ce qui pouvait en résulter. Puis les relations devinrent moins tendues. L'air pur et les longues heures d'été passées au dehors donnèrent du ressort à Mattie et Zéna, ayant plus de temps à consacrer à ses maladies compliquées, se montra moins attentive aux oublis de la jeune fille. Alors Ethan, qui pliait sous le fardeau de sa ferme peu productive et de sa scierie trop peu moderne, put au moins s'imaginer que la paix régnait à son foyer. En fait, rien de précis n'était venu démontrer le contraire. Mais depuis la nuit précédente, Fromm sentait vaguement qu'un danger menaçait son bonheur. C'était le silence obstiné de Zéna. C'était le coup d'œil que Mattie lui avait adressé pour l'avertir. C'était le souvenir de ces 1000 petits riens, pareils aux indices, qui par certaines matinées radieuses font prévoir un temps pluvieux pour le soir. Son angoisse était si forte que, semblable en ceci à tous les hommes, il s'efforça d'ajourner la certitude. Le transport du bois ne s'acheva qu'à midi, et comme il devait être livré à Andrew Hill, l'entrepreneur de Starkfield, Ethan jugea plus simple de renvoyer à pied Jonathan Powell, son charretier, jusqu'à la ferme et de conduire lui-même le chargement au village. Fromm avait déjà escaladé les planches et s'était assis dessus à califourchon, tout près de ses chevaux poilus. Soudain, entre ses yeux et leur cou fumant, s'interposa la vision du regard inquiet que Mattie lui avait jeté la nuit précédente. Si quelque chose doit se passer, il faut que je sois là, en tout cas, murmura-t-il en lui-même. Et il lança à Jonathan l'ordre de détacher l'attelage et de le ramener à l'écurie. Lentement, à travers la neige amollie, les deux hommes revinrent à la maison. Quand ils entrèrent dans la cuisine, Mattie retirait le café de dessus le fourneau. Zéna était déjà attablée. Ethan s'arrêta court en la voyant. Au lieu de son peignoir habituel de percale foncé et de son châle en tricot, elle avait mis sa belle robe brune de mérinos. Sur ses minces touffes de cheveux, qui gardaient encore les ondulations des épingles à friser, se dressait un monumental chapeau à brides. Fromm le connaissait bien car il l'avait payé 5 $ chez le marchand de nouveautés de Bettes Bridge. Et sur le plancher, à côté de sa femme, était posée sa vieille valise et un carton enveloppé dans un journal. « Mais où allez-vous donc, Zéna ?» lui dit-il. Oh, « mes douleurs m'élancent si fort que je vais à Bettes Bridge. Je coucherai chez tante Martha Pierce et je verrai le nouveau docteur, » répondit-elle avec la même insouciance que si elle avait dit « Je vais à la réserve jeter un coup d'œil sur les compotes au bout. Je monte au grenier voir l'état des couvertures. » Malgré les habitudes casanières de Zéna, une décision aussi imprévue n'était pas sans précédent. Deux ou trois fois déjà, elle avait rempli la valise d'Ethan et s'était partie pour Bettsbridge ou même pour Springfield afin de consulter quelques nouveaux docteurs, et Fromm avait acquis la terreur de semblables expéditions qui lui coûtaient généralement gros. À chaque voyage, elle revenait chargée de remèdes coûteux, et sa dernière visite était demeurée mémorable par l'achat d'une batterie électrique qu'elle avait payée 20 $ et dont elle n'avait jamais été capable d'apprendre le maniement. Pour l'instant, néanmoins, le soulagement d'Ethan éprouvait était si grand qu'il l'emporta. Il ne doutait plus à cette heure que Zéna n'eût parlé sincèrement la nuit précédente en disant qu'elle était trop souffrante pour dormir. Sa résolution brusque d'aller consulter un médecin semblait montrer que, suivant sa coutume, elle était uniquement préoccupée de sa santé. Comme si elle attendait une protestation, elle continuait d'une voix plaintive. « Si vous êtes trop occupé par le charriage, sans doute pourriez-vous au moins laisser Jonathan Powell me conduire au train avec l'alezan. » Ethan l'écoutait à peine. Il était absorbé par un rapide calcul. Pendant l'hiver, il n'y avait pas de diligence entre Starkfield et Bettsbridge, et les trains qui s'arrêtaient à Corbury Flats étaient lents et rares. Zéna ne pourrait donc pas être de retour à la ferme avant le lendemain soir. « Si j'avais pu penser que vous feriez une objection à ce que Jonathan Powell me conduisît, » reprit-elle, comme si le silence de son mari impliquait un refus. Sur le point de partir, elle devenait toujours loquace. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas vivre comme ça plus longtemps. Les douleurs sont maintenant descendues à mes chevilles. Autrement, j'aurais été à pied à Starkfield plutôt que de vous déranger, et j'aurais demandé à Michel et Eddie de me laisser monter sur le camion qui va chercher ses marchandises à la gare. J'aurais eu 2 heures à attendre mon train, mais j'aurais mieux aimé cela, même par ce froid, que de vous faire cette demande. « Mais Jotham vous conduirait, » répondit Ethan. Et il venait de se rendre compte, subitement, qu'il regardait Matty pendant que Zéna lui parlait, et il lui fallait faire effort pour tourner les yeux vers sa femme. Elle était assise face à la fenêtre, et le jour blafard, envoyé par la neige entassée devant la maison, faisait paraître son visage plus livide encore et plus fatigué que de coutume. La lumière crue creusait les 3 lignes parallèles entre l'oreille et la joue. Elle durcissait les rides qui partaient des narines pincées pour aboutir aux commissures des lèvres, bien qu'il eût tout juste 34 ans. 6 de plus que Fromm, et Zéna était déjà une vieille femme. Ethan essaya de trouver une phrase appropriée à la circonstance, mais un seul fait occupait son esprit pour la première fois depuis que Matty habitait avec eux. Zéna n'allait point passer la nuit à la maison. Il se demanda si la jeune fille y pensait, elle aussi. L'idée lui vint que sa femme devait s'étonner qu'il ne lui offrit pas de la conduire lui-même au Flats, laissant à Jotham Powell le soin de mener le chargement de bois à Starkfield. Il chercha un prétexte à lui donner, mais ne le trouva pas sur l'instant. Ce fut au bout de quelques secondes seulement qu'il s'excusa. « Je vous aurais conduite moi-même, mais il faut que je touche l'argent de ces bois. » À peine avait-il prononcé ces paroles qu'il les regretta. Non seulement elles étaient mensongères, car il était peu probable en effet que elle le payât, mais encore il savait par expérience le danger de laisser supposer à Zéna une rentrée de fonds à la veille d'une visite au médecin. Toutefois, il ne pensait sur l'heure qu'à éviter le long tête-à-tête avec elle, derrière le vieux cheval traînard. Mais Mrs. Fromm ne répondit pas. Elle sembla même ne pas avoir entendu les paroles de son mari. Elle avait déjà repoussé son assiette et versait une cuillerée d'une potion glacée auprès d'elle. « Ça ne m'a jamais fait grand bien, mais il faut tout de même mieux vider le flacon, » remarqua-t-elle. Et, poussant devant Mathilde le récipient vide, elle ajouta, « Oh, si vous pouvez faire disparaître le goût, on s'en servira pour les pickles. » Dès que Zéna fut partie, et Sam prit à la patère son chapeau et son manteau. Mathilde lavait la vaisselle, tout en fredonnant un air de danse de la nuit précédente. « Au revoir, Mathilde, » dit-il. Gaiement, elle répliqua, « Au revoir, Ethan. » Un beau soleil chaud éclairait la cuisine. La lumière tombait de biais sur les mouvements de la jeune fille, sur le chat qui sommeillait près du poêle, et sur les géraniums en pot qu'Ethan avait plantés l'été précédent, pour faire un jardin à Mathilde et qu'on avait rentré l'hiver. Ethan aurait voulu rester là, regarder Mathilde, tandis qu'elle terminait ses rangements et qu'elle s'installait à coudre auprès du feu. Mais il tenait davantage encore à charrier le bois afin de pouvoir rentrer à la ferme avant la nuit. Jusqu'au village, il continua de penser au retour. La cuisine n'était pas bien belle. Elle était plus pimpante, mieux tenue sans doute au jour de son enfance, quand sa mère s'en occupait. Mais lui-même s'étonnait de l'air confortable que l'absence de Zéna lui avait donné. Il se représentait l'aspect de la pièce ce soir, lorsque Mathilde et lui s'y trouveraient réunis après le souper. Pour la première fois seul et toute porte close, il s'installerait de chaque côté du poêle comme un vieux ménage. Ethan aurait la pipe à la bouche, les pieds en chaussettes tournés vers le feu, et Mathilde rirait et bavarderait de ce babil si doux aux oreilles du jeune homme qu'il croyait toujours l'entendre pour la première fois. Le charme qu'il éprouvait à évoquer ce tableau et le soulagement de n'avoir plus à redouter une histoire avec Zéna l'emplir d'une gaieté débordante. Lui, si taciturne de nature, il se mit à siffler et à chanter à haute voix. Il sifflait et chantait à voix haute en conduisant son attelage à travers champs. Malgré les âpres hivers de Starkfield, un instinct de sociabilité sommeillait encore en lui. Grave et renfermé par tempérament, il admirait la témérité et la faconde chez les autres et se sentait réchauffé jusqu'au moelle lorsqu'il rencontrait de la sympathie. À Worcester, bien qu'il eût la réputation d'être peu expansif et de manquer d'entrain, il éprouvait toujours un plaisir secret lorsque quelques copains lui donnaient une bourrade en l'appelant « mon vieux » ou « vieil étayoir ». Et de retour à Starkfield, l'absence de ses familiarités n'avait pas été sans accroître son isolement. D'année en année, le silence s'était fait plus profond autour de lui. Demeuré seul après l'accident de son père, pour porter le double fardeau de la ferme et de la scierie, il n'avait pas eu le loisir de partager les flâneries, couper d'arrêt au bar des jeunes gens du village. Et quand sa mère tomba malade à son tour, la maison devint plus solitaire que les champs mêmes qui l'environnaient. La vieille Mrs. Fromm avait été assez bavarde dans sa jeunesse, mais après son attaque, bien qu'elle n'eût pas perdu l'usage de la parole, elle ne parla presque plus. Quelquefois, durant les interminables soirées d'hiver, si son fils, énervé par le silence, lui demandait pourquoi elle ne disait pas quelque chose, elle levait un doigt et répondait « Parce que je t'écoute ?» Et certaines nuits d'ouragan, lorsque le vent hurlait autour de la maison, elle se plaignait de ne pouvoir entendre ce qu'Itham lui disait « Parce qu'il faisait tant de bruit au dehors. » Ce fut seulement à l'époque de la dernière maladie de Mrs. Fromm, quand Zenobia Pierce vint de la vallée voisine pour aider son cousin à soigner la vieille femme, que l'on entendit résonner une voix humaine dans la maison. Après tant d'années de silence, la volubilité de la jeune fille fit à Ethan l'effet d'une musique. Il comprit alors qu'il aurait pu devenir comme sa mère si l'accent d'une parole sensée ne fut pas venu le remettre d'aplomb. Sa cousine parut comprendre son cas du premier coup. Elle s'étonnait en riant qu'il n'eût aucune notion des soins donnés à une malade. Elle lui ordonna de vaquer à ses affaires en le priant de se décharger sur elle du reste. Le seul fait de lui obéir, de reprendre le travail et de retrouver des gens à qui parler avait suffi pour l'équilibre d'Ethan. Il avait aussitôt voué une reconnaissance sans borne à sa cousine. Les capacités de Zéna l'émerveillaient et l'humiliaient à la fois. Elle semblait posséder d'instinct des vertus ménagères que lui-même n'avait pu acquérir malgré un long apprentissage. Lorsque Mrs. Fromm mourut, ce fut Zéna qui fut obligée d'envoyer Ethan chez l'entrepreneur des pompes funèbres. Ce fut elle aussi qui trouva bizarre qu'il n'eût pas décidé par avance à qui il donnerait la garde-robe et la machine à coudre de sa mère. Après l'enterrement, quand Ethan avait vu sa cousine sur le point de repartir, une crainte irraisonnée de rester seule à la ferme l'avait saisie, et avant même d'avoir pu se rendre compte de ce qu'il faisait, il avait offert à Zéna de l'épouser. Depuis, il s'était souvent dit que la chose ne serait pas arrivée si la mort de sa mère était survenue au printemps au lieu de l'hiver. En se mariant, ils étaient convenus qu'aussitôt après la liquidation des dettes causées par la longue maladie de Mrs. Fromm, Ethan vendrait la ferme et la scierie pour tenter fortune dans une ville industrielle. Son amour de la nature n'impliquait pas en effet le goût de cultiver les champs. Il avait toujours rêvé d'être ingénieur et de vivre dans une ville où il y aurait des cours, des bibliothèques et des gens qui font des choses. Un modeste travail de mécanicien qu'on avait envoyé exécuter en Floride du temps de ses études à Worcester l'avait convaincu de sa propre habileté et avait en même temps accru son désir ardent de voyager. De plus, il se figurait qu'avec une femme sachant se débrouiller comme la sienne, il ne tarderait pas à se créer une situation. Le village natal de Zéna était légèrement plus important et plus rapproché du chemin de fer que Starkfield. Aussi n'avait-elle pas caché à son mari, dès le début de leur mariage, que la vie dans une ferme isolée ne réalisait guère le rêve qu'elle avait fait en l'épousant. Mais les acquéreurs furent lents à se présenter, et dans l'intervalle, Ethan put se rendre compte de l'impossibilité de transplanter sa compagne. Zéna méprisait Starkfield, mais elle était incapable de vivre dans un endroit qui l'eût méprisée, elle. Même à Bitsfridge et à Shad's Falls, elle n'eût pas pu jouer un rôle suffisamment important. Et dans les villes qui attiraient Ethan, elle s'est encourue une perte totale de sa personnalité. D'ailleurs, moins d'un an après leur mariage, s'était développée la nature maladive qui lui avait donné depuis une certaine célébrité, même dans un pays où les cas pathologiques formaient un des principaux sujets de conversation. Quand elle était venue soigner la vieille Mrs. Fromm, Ethan avait été séduit par l'air florissant de sa cousine. Mais il ne tarda pas à comprendre que son énergie comme garde-malade avait pour cause l'étude constante de son propre état. Puis, peu à peu, elle aussi était devenue silencieuse. Peut-être était-ce l'inévitable résultat de la vie à la ferme, ou encore, comme elle disait quelquefois, parce que son mari n'écoutait jamais. Ce reproche n'était pas tout à fait immérité. Quand Zéna parlait, ce n'était guère que pour se plaindre de choses auxquelles il ne pouvait remédier. Et pour vaincre une tendance naturelle à la riposte, il avait d'abord pris l'habitude de ne pas répondre, puis finalement de penser à autre chose durant ses discours. Cependant, depuis qu'il avait eu des raisons pour l'observer de plus près, le silence de Zéna avait commencé à l'inquiéter. Il s'était rappelé la taciturnité croissante de sa mère et il s'était demandé si sa femme n'allait pas devenir bizarre à son tour. Zéna, qui possédait sur le bout des doigts la carte pathologique de toute la région, avait souvent fait allusion, pendant qu'elle soignait Mrs. Fromm, à d'autres cas similaires. Ethan, d'ailleurs, n'ignorait pas que dans plus d'une ferme isolée du voisinage, on cachait le pauvre être qui dépérissait de la même façon et que dans d'autres, la présence de ces malheureux avait amené de lamentables tragédies. Parfois, lorsqu'il regardait le visage morne de sa femme, il frissonnait, craignant pareil malheur. Parfois, sa taciturnité lui semblait plutôt une attitude volontaire, dissimulant des intentions sournoises, de mystérieux desseins issus de soupçons et de rancunes impénétrables. Cette dernière supposition était la plus troublante. C'était aussi celle qui s'était présentée à son esprit la nuit précédente, lorsqu'il avait vu Zéna debout sur le seuil de la cuisine. Néanmoins, le départ pour Bessbridge l'avait une fois de plus rassuré, et toutes ses pensées se concentraient sur la soirée qu'il allait passer avec Matty. Une seule chose le préoccupait encore. Il avait dit à Zéna que son chargement de bois devait lui être payé, et il prévoyait si nettement les conséquences de ce mensonge qu'il se décida, non sans répugnance, à prier Andrew Hill de lui avancer quelque argent sur la livraison. À son entrée dans la cour de l'entrepreneur, il trouva celui-ci qui descendait de traîneau. « Bonjour, Ethan, lui dit elle. Oh, vous arrivez bien. » Le visage rubicond d'Andrew Hill était barré d'une forte moustache grise. Aucun col ne gênait son double menton mal rasé, mais sa chemise d'une blancheur sans tache était toujours fermée par un petit bouton de diamant. Signe d'opulence du reste trompeur, car bien qu'il fît d'assez belles affaires, on savait que ses goûts dispendieux et les exigences de sa nombreuse famille lui créaient souvent de l'arriéré. Elle était un vieil ami de la famille Fromm. Sa maison était l'une des rares que Zéna honorait quelquefois d'une visite, car la femme d'Andrew avait été dans sa jeunesse la malade la plus importante du village, et ce passé lui valait d'être considéré comme une autorité en matière de diagnostic et de remède. Elle s'avança vers les chevaux et caressa leurs flancs en sueur. Bigre, mon vieux, vous soignez ces deux-là comme s'ils étaient vos propres enfants. Hissan déchargea le bois. Sa besogne finie, il poussa la porte vitrée du hangar que l'entrepreneur avait transformé en bureau. Elle était assise, les pieds sur le poêle, le dos appuyé contre un pupitre usé couvert de papier. La pièce ressemblait à son propriétaire, tout y était accueillant mais désordonné. « Mettez-vous là, chauffez-vous » dit-il à Hassan avec bonhomie. Hassan ne savait trop comment présenter sa requête. Et alors, après avoir vainement cherché une entrée en matière, il finit par demander à brûle-pourpoint une avance de $50. Devant le geste de surprise de Hale, un flot de sang monta au visage du jeune homme. C'était l'habitude de l'entrepreneur de payer tous les 3 mois, il n'y avait pas de précédent entre eux d'un règlement au comptant. Ethan sentit que s'il avait argué d'un besoin urgent, elle eût peut-être trouvé moyen de le contenter. L'amour-propre et une instinctive prudence l'empêchaient d'avoir recours à cet argument. À la mort de son père, il avait mis un certain temps à se tirer d'affaire, mais il avait eu la satisfaction de ne recourir ni à Andrew Hill ni à personne d'autre. À plus forte raison, ne voulait-il pas aujourd'hui laisser supposer que sa situation était devenue moins bonne. Et puis, il détestait le mensonge. S'il lui fallait de l'argent, il le lui fallait, il n'avait pas d'explication à donner. C'est pourquoi il avait formulé sa demande avec la maladresse d'un homme orgueilleux qui ne veut pas s'avouer qu'il s'abaisse. Le refus de elle ne le surprit donc pas autrement. L'entrepreneur se déroba avec sa rondeur habituelle. Il parla de l'affaire sur un ton de plaisanterie, demanda à Fromm s'il avait l'intention d'acheter un piano à queue ou bien d'ajouter une couple à sa maison. « Dans ce cas, lui dit-il en riant, pour vous, je travaillerai gratis. » Ethan fut vite à bout d'expédients, et après un instant de silence embarrassé, il se leva pour prendre congé. Comme il ouvrait la porte du bureau, elle le rappela brusquement. « Non, dites-moi, vous n'êtes pas sérieusement gêné, j'espère. »« Non, mais non, 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 pas du tout. » L'orgueil de Fromm avait dicté sa réponse avant même que sa raison eût le temps d'intervenir. « Eh bien, dans ce cas, tout est pour le mieux, car moi-même, je le suis un peu. Et je voulais précisément vous demander un sursis pour le paiement. Oh, les affaires ne marchent pas très fort. Et puis, je suis en train d'arranger une petite maison pour Ned et Ruth quand ils seront mariés. Je le fais avec plaisir, mesdames, ça coûte. Les jeunes gens aiment à être bien logés. Vous savez ça par vous-même. » Il n'y a pas si longtemps que vous et Zena vous êtes installés. Fromm remisa ses chevaux dans l'écurie d'Andrew Hall et alla au village pour une autre affaire. La dernière phrase de l'entrepreneur résonnait toujours à ses oreilles et il songeait avec amertume que les 7 années de son union avec Zena paraissaient sans doute plus courtes aux gens de Starkfield qu'à lui-même. L'après-midi touchait à sa fin. Déjà, quelques vitres pailletaient de lueur jaune le crépuscule glacial et semblaient rendre la neige plus blanche encore. La température rigoureuse avait ramené chacun chez soi. Hissam cheminait seul à travers la longue rue. Tout à coup, il entendit un léger tintement de clochette et un cutter passa vivement près de lui. Il reconnut le poulain rouant de Michel et Eddy que conduisait son fils, coiffé d'une nouvelle casquette de fourrure. Le jeune homme le salua d'un « Bonjour, Ethan !» et le dépassa au trot rapide de son cheval. Le cutter allait dans la direction de la ferme des Frome, et le cœur d'Ethan se contracta en écoutant le son des grelots qui s'éloignaient. Il était très vraisemblable que Denis et Edie, ayant appris le départ de Zena pour Bettsbridge, profitaient de l'occasion pour aller passer une heure auprès de Matty. Ethan était honteux de la jalousie qui grondait dans son cœur. Il lui semblait offensant pour la jeune fille qu'il éprouvât à son égard des sentiments aussi violents. Il continua son chemin jusqu'à l'église et entra dans l'ombre que projetaient les sapins de Varnum. C'était l'endroit même où il avait rejoint Matty la nuit précédente. À quelques pas devant lui, il aperçut, dans la pénombre, la vague silhouette d'un couple enlacé. Il crut entendre un baiser, puis un haut rieur, mi-confus, lui apprit qu'on l'avait vu. Le couple se sépara brusquement, et l'une des deux personnes se glissa par la grille du jardin des Varnum, tandis que l'autre continuait rapidement son chemin. Ethan sourit en pensant au trouble que son approche avait causé aux amoureux. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien faire à Ned Hale et à Ruth Varnum qu'on les vit s'embrassant? Tout le monde savait leurs fiançailles. Il lui plut de les avoir surpris ainsi à l'endroit même où la veille Matty et lui avaient senti leur cœur si proches l'un de l'autre. Puis il songea, avec un retour de tristesse, que Ned et Rude n'avaient pas besoin, eux, de cacher leur bonheur. Il sortit ses chevaux de l'écurie de Hale et reprit le chemin de la ferme. Le froid était moins âpre que pendant le jour. De gros nuages moutonneux annonçaient une nouvelle tombée de neige pour le lendemain. De ci, de là, une étoile perçait la nuit et creusait d'alentour une profondeur éblouissante. Dans une heure ou deux, la lune se lèverait au-dessus de la montagne, derrière la ferme. Elle s'ouvrirait un chemin doré à travers les nuages, puis serait de nouveau voilée par eux. Une paix mélancolique s'étendait sur les champs. On eût dit que la diminution du froid leur causait un soulagement et qu'ils s'assoupissaient plus mollement de leur long sommeil d'hiver. L'oreille d'Ethan guettait le tintement des clochettes de Heidi, mais aucun bruit ne troublait le silence de la route déserte. En approchant de la ferme, il aperçut, à travers le léger rideau de mélèze, une lumière qui tremblotait au loin, une des fenêtres. Oh, elle est là-haut, pensa-t-il, elle se prépare pour le souper. Puis il se rappela le coup d'œil railleur que Zena avait eu lorsque, le soir de son arrivée, Matty s'était mis à table, les cheveux lissés, un ruban autour du cou. Il passa près du petit monticule enclos et jeta un regard sur une des plus vieilles pierres tombales. Dans son enfance, il la regardait souvent parce qu'elle portait son nom. Sigise, Ethan Frome et sa femme Endurance, qui vécurent ensemble en paix pendant 50 ans. Souvent, depuis lors, il s'était dit que 50 ans, c'était un bien long temps pour vivre côte à côte. Mais aujourd'hui, il comprenait que ce temps pouvait s'écouler avec la rapidité de l'éclair. Puis, dans un soudain accès d'ironie, il songea que pareille inscription serait peut-être placée quelque jour sur leur tombeau à Zena et à lui. Il ouvrit la porte de l'écurie et avança la tête dans l'obscurité. Il éprouvait la vague appréhension de trouver là le poulain de Denis et Edie installé à côté de son cheval. Mais le vieil alezan était seul, mâchelant son râtelier d'une bouche édentée. La joie de Fromm fut si grande qu'en préparant la litière de ses bêtes, il se mit à siffler et qu'il versa dans les mangeoires une ration supplémentaire. Sa voix n'était pas particulièrement harmonieuse, mais de rudes mélodies s'échappèrent de son gosier, tandis qu'il fermait l'écurie et montait la pente vers la maison. Il atteignit la porte de la cuisine et tenta en vain de l'ouvrir. Étonné, il secoua violemment le loquet. Puis il réfléchit. Matty est seul, bon, il est naturel que ce soit enfermé à la nuit. Il écoutait, dans l'obscurité, guettant le son d'un pas. Après avoir de nouveau tendu l'oreille, il cria d'une voix joyeuse « Hola, Matty !» Il n'y eut aucune réponse. Mais un instant après, il entendit un léger bruit dans l'escalier et vit sous la porte un rayon lumineux. La fidélité avec laquelle les incidents de la veille se répétaient le frappait à ce point qu'il s'imagina presque, lorsque la clé tourna, que sa femme allait surgir devant lui, enveloppée dans son couvre-lit de calicot. La porte s'ouvrit, et ce fut Matty qui parut. Elle se tenait exactement comme Zéna dans le cadre sombre de la cuisine. La lampe, maintenue à la même hauteur, éclairait avec la même netteté la gorge ronde de la jeune fille et son poignet ambré, menu comme celui d'un enfant. Puis elle éleva la lampe et la lumière aviva l'éclat de ses lèvres, mit autour de ses yeux une ombre veloutée, éclaira la blancheur laiteuse de son front au-dessus des longs sourcils noirs. Matty était habillée de sa robe habituelle de drap sombre. Elle ne portait pas de nœud au cou, mais dans sa chevelure, elle avait disposé une torsade de ruban rouge. Cette marque de coquetterie charma Ethan comme un hommage rendu à ce que la situation avait d'exceptionnel. La jeune fille lui parut plus grande, plus svelte, plus complètement femme par l'allure et le geste. Elle l'accueillit avec un sourire silencieux, puis elle s'éloigna d'un pas souple et posa la lampe sur la table. Ethan vit alors que le couvert avait été soigneusement dressé pour le repas du soir. Il remarqua un plat de dove nuts, une compote de blueberries, et sur un beau plat de verre rouge, ses pickles préférés. Le chat, allongé devant le feu clair qui flambait dans le poêle, surveillait la scène du coin de son œil à demi-clos. Une sensation de bien-être envahit brusquement Ethan. Il gagna l'entrée pour accrocher sa pelisse et retirer ses chaussures mouillées. Lorsqu'il revint, Matty avait placé la théière sur la table et le chat se frottait familièrement contre sa jupe. « Prends garde, Pousse, tu vas me faire tomber !» s'écria-t-elle, les yeux brillants. Une fois encore, Fromm se sentit mordu par une jalousie soudaine. Était-ce bien son retour qui donnait à la jeune fille ce visage radieux ?« Personne n'est venu, Matty !» dit-il en se baissant comme pour surveiller le fonctionnement du poêle. Elle fit un signe de tête rieur. « Si, une personne !» Le front d'Ethan se rembrunit. « Mais qui donc ? » demanda-t-il en se relevant vivement et la regardant à la dérobée. Les yeux de Matty pétillaient de malice. « Eh mon Dieu ! Jonathan Powell ! Il est entré en revenant de la gare et m'a demandé une tasse de café avant de retourner chez lui. » L'inquiétude de Fromm se dissipa. Une chaleur subite inonda son cœur. « C'est tout ? Oh, j'espère bien que vous la lui avez donnée !» Puis il sentit qu'il était convenable d'ajouter. « Il est arrivé à l'heure pour le train de Zéna. Oui, largement. Le nom de Zénam mit une gêne momentanée entre eux. Ils gardèrent le silence. Puis Matti reprit avec un air timide: Oh, je pense qu'il est temps de se mettre à table. Ils s'assirent, et le chat, se faufilant entre eux, sauta sur la chaise de Zéna. Oh, Pousse, quelle idée! S'écria Matti, et tous deux se mirent à rire de nouveau. Un moment auparavant, Ethan s'était senti en veine d'éloquence, mais l'évocation de Zéna l'avait glacé. La jeune fille, à son tour, sembla gagnée par le même embarras. Elle s'assit, les yeux baissés, buvant son thé à petites gorgées, tandis que Fromm simula un appétit vorace pour les donuts et les pickles au sucre. Enfin, après avoir longtemps cherché une entrée en matière, il avala une lampée de thé et dit: Oh, on croirait qu'il va encore neiger. Elle feignit de s'intéresser vivement à cette nouvelle. Vraiment, pensez-vous que cela puisse empêcher Zéna de rentrer? Elle rougit comme si la question lui avait échappé malgré elle et posa brusquement sa tasse. Ethan, pour se donner une contenance, étendit la main vers les pickles. Oh, à cette époque de l'année, on ne sait jamais, dit-il. Les tourbillons de neige chassent dru du côté des Flats. Encore une fois, le nom de Zéna l'avait paralysé. Il lui semblait que sa femme se trouvait dans la pièce entre deux. Brusquement, Matty poussa un cri. Oh, Pousse, oh, tu es trop gourmand! Profitant de leur moment de gêne, le chat avait sauté de la chaise de Zéna sur la table. Sournoisement, il allongea son long corps souple vers le pot de lait placé entre Ethan et Matty. Tous deux se penchèrent en avant et leurs mains se rencontrèrent sur l'anse de la cruche. Celle de la jeune fille se trouvait en dessous, et Ethan y appuya la sienne un peu plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Le chat profita de ce manège pour essayer une prudente retraite. Mais en reculant, il mit la patte dans le beau plat en verre rouge que contenaient les pickles. Le plat tomba sur le plancher avec fracas. D'un bond, Matty avait quitté sa chaise et s'était agenouillé à côté de débris. Oh, Issan, Issan, le beau plat de Zéna est en morceaux. Que dira-t-elle? Cet incident en dit à Fromm tout son sang-froid. Ben, il faudra qu'elle s'en prenne au chat, voilà tout, répliqua-t-il en riant. Il s'agenouilla à son tour auprès de Matty et commença à ramasser les pickles épars. Mais elle tournait vers lui des yeux désolés. Vous savez bien qu'elle ne voulait jamais que l'on s'en servît de ce plat, même quand il y avait du monde. Il était sur la plus haute planche de l'armoire. Elle voudra savoir pourquoi j'ai été l'y dénicher. Pour l'atteindre, il m'a fallu monter sur l'escabeau. En présence d'un tel désastre, Ethan fit appel à toute son énergie. Ben, elle ne saura rien si vous vous tenez tranquille. J'irai demain acheter un plat semblable. D'où vient-il? Oh, au besoin, je pousserai jusqu'à Shed's Falls. Mais même à Shed's Falls, vous n'en trouverez jamais. C'était un cadeau de noces, vous ne vous souvenez pas? Il a été envoyé de Philadelphie par la tante de Zéna, qui a épousé le pasteur. C'est pourquoi elle ne voulait jamais s'en servir. Oh, Ethan, Ethan, que faire? Elle se mit à pleurer. Et à chacune de ses larmes, il croyait sentir tomber sur lui une goutte de plomb fondu. Je vous en prie, Matty, je vous en prie, ne pleurez pas ainsi. Elle se releva, Fromm la suivit, désespérée, pendant qu'elle étalait sur le buffet les morceaux de verre. Il lui semblait que ces débris étaient comme le symbole de leur soirée manquée. « Alors, donne-les-moi, » dit-il tout à coup. Elle s'écarta, obéissant instinctivement au son autoritaire de sa voix. « Oh, Issan, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous en faire ?» Sans répondre, il rassembla les fragments dans sa large main et s'enfuit vers l'antichambre. Il alluma un bout de chandelle, ouvrit l'armoire, étendant son bras jusqu'à la dernière planche, y plaça les morceaux en ayant soin de les disposer de sorte qu'il fut impossible de voir d'en bas que le plat était brisé. S'il recollait des débris dès le lendemain matin, des mois pourraient s'écouler avant que sa femme s'aperçût de l'accident. Et d'ici là, du reste, il trouverait peut-être à remplacer le plat. Convaincu que tout danger prochain était écarté, il rentra dans la cuisine d'un pas plus léger. Mati, inconsolable, recueillait les restes des pickles. « Allô, Mati, finissons de souper. Tout est arrangé, » dit-il. Rassurée, elle lui jeta un regard souriant à travers ses longs cils encore humides. Le cœur de Fromm battait d'orgueil à la voir si soumise à sa parole. Elle ne lui demandait même pas ce qu'il avait fait. Jamais, sauf lorsqu'il dirigeait la descente d'un grand tronc d'arbre du haut de la montagne, il n'avait éprouvé aussi pleinement la sensation d'être le maître.